Dans Hébreux 4, on va passer un peu de temps dans ce chapitre. Mais en même temps, on va se promener. Si je vous demandais, qui parmi vous a besoin de se reposer? Je sais pas si c'est juste à cause des vacances que, en tout cas, que mon étude s'est tournée vers ce sujet-là, le sujet du repos. Le titre, peut-être vous allez pas faire le lien tout de suite avec le titre, parce qu'on va parler de repos, mais le titre du message ce matin, c'est « Aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs ». Aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Si on suppose que j'ai dormi en moyenne 7 heures par jour depuis que je suis né, j'aurais dormi au moins 107 000 heures. Ça, c'est frappant. Je l'ai recalculé 2-3 fois, puis je ne le croyais pas encore. Je suis allé voir sur Internet. Puis, il est estimé que dans une vie moyenne, une personne, disons, qui va mourir dans les alentours de 65-70 ans, va avoir dormi environ 24 ans. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est surprenant, on n'y pense pas. C'est le tiers de nos journées, si on est une personne plus ou moins normale. Je dois vous avouer que j'aimerais ça atteindre le tiers de ma journée en sommeil des fois. C'est pas toujours évident. On vit dans un monde stressant, un monde de performance, un monde qui laisse pas beaucoup de place au repos. Et particulièrement avec toute l'ère de la technologie, on dirait que même quand on se repose pas encore. Les téléphones nous suivent partout. Quand les gens partent en vacances, c'est rare qu'ils vont partir en vacances sans leur technologie. Et même s'ils partent en vacances sans leur technologie, ils vont partir, vont avoir plein d'activités, un horaire bien structuré. Souvent, on finit les vacances et on dit « Enfin, je vais pouvoir me reposer. » Je suis en train de vous décrire mes vacances. Plus ou moins. J'ai eu un peu de temps pour me reposer. J'ai même atteint mon 8 heures de sommeil par jour, plus ou moins. Mais d'un autre côté, on voit que le monde parle beaucoup de l'importance de se ressourcer, d'endroits pour se reposer. On voit des spas. Moi, quand j'étais jeune, des spas, ça existait peut-être en Norvège, là, mais ici, ça n'existait pas. Des centres de massage, des centres de thérapie, des centres de ci, de ça, et de thérapie anti-stress. Et si le repos est si important dans le monde séculier, pas séculaire, mais séculier, pas pareil, eh bien, combien plus le repos est important pour l'âme, pour dans le domaine spirituel. Et la Bible parle beaucoup du repos. C'est étonnant, si vous avez une concordance, vous regardez les mots qui ont rapport à se reposer, le repos. Ça revient beaucoup de fois dans plusieurs livres de la Bible. Et il y a même un psaume qui a été écrit, le psaume 92, c'est un cantique pour le jour du sabbat. On sait que dans l'Ancien Testament, le sabbat était quelque chose de sacré. Ça faisait partie de la loi. Et c'était quelque chose que Dieu avait donné à son peuple. Et quand on lit les évangiles, on voit les pharisiens qui reviennent souvent avec ça parce que Jésus faisait pas comme eux. Et Jésus faisait des choses hors du commun le jour du sabbat. Jésus avait quelque chose à leur enseigner par rapport à ça, parce qu'ils n'avaient pas compris le sabbat de Dieu, ce que Dieu voulait leur enseigner à travers le sabbat. Dieu avait quelque chose de meilleur en tête, meilleur qu'un sabbat physique, qui est l'image du vrai repos spirituel. Alors, Dieu voulait leur enseigner, voulait les amener à un endroit encore bien meilleur que tout simplement un repos du corps, quoique nécessaire. Maintenant, le repos, on est appelé à se reposer. On est appelé à un repos qui est pas celui nécessairement du sabbat comme on voit dans l'Ancien Testament. Pas juste un repos qui sert au corps. Comme je l'ai dit, les pharisiens martelaient, revenaient avec ça. Les principaux sacrificateurs étaient furieux quand Jésus guérissait quelqu'un un jour du sabbat. Jésus les a repris pour leur hypocrisie, mais aussi pour leur incrédulité. Leur incrédulité, c'était le point central, c'était là où il y avait une défaillance, là où il y avait un problème pour les pharisiens, pour les sacrificateurs, pour le peuple, l'incrédulité. Et Jésus voulait leur faire connaître le vrai repos parce qu'il ne voulait pas croire qu'il y avait quelque chose de meilleur. Il voulait s'asseoir sur la loi, s'asseoir sur qu'est-ce qu'eux, ils étaient capables de faire, s'asseoir sur leurs œuvres. Et c'était là le problème. Dans Matthieu 11, verset 28, Jésus, quand après qu'il y a eu un point de rupture dans son ministère, l'incrédulité régnait, les chefs du peuple avaient rejeté Jésus, et Jésus va vraiment dénoncer l'incrédulité des villes comme Chorazin, Bethsaïda, Capernaum, et là il lance un jugement. Et il se tourne vers les gens qui sont autour de lui, qui le suivent, puis il va leur dire, « venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, et je vous donnerai du repos. » Et c'est là l'appel ce matin, l'appel qui n'est pas juste pour une ou deux personnes, l'appel qui est pour tous. Nous sommes tous appelés à ce repos-là. Et Jésus lance l'appel envers les pécheurs. Jésus lance cet appel-là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous tous qui reconnaissez que vous avez un problème avec cette loi-là, parce qu'il y avait la loi de Dieu qui était sévère, qui était stricte et qui était impossible à l'homme de satisfaire. Impossible à l'homme de respecter à la lettre. Et l'homme a un problème. L'homme n'est pas capable de satisfaire aux exigences de Dieu par ses propres œuvres. Et Jésus lance cet appel-là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, si vous reconnaissez que vous avez un problème dans votre cœur, parce que votre cœur n'est pas droit devant Dieu, parce que votre péché vous empêche d'aller à Dieu, parce que votre péché est un obstacle pour aller à Dieu, pour aller au trône de la grâce. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, vous tous qui reconnaissez que vous n'êtes pas capables, qu'en dehors de vous doit être la solution, parce que en vous, il n'y a rien qui peut vous amener jusque-là d'une manière parfaite. Jésus offre le repos à tous. À tous. Il n'a pas offert ce repos-là aux chefs religieux parce qu'ils n'ont pas voulu reconnaître leurs besoins. C'est le point de départ. Reconnaissez-vous votre besoin. Si vous avez reconnu un jour que vous aviez le plus grand besoin qui soit d'être racheté, d'être lavé par le sang de Jésus-Christ, celui qui a tout payé, celui qui a tout accompli, eh bien, vous avez déjà franchi ce point-là d'entrer dans le repos, entrer dans le repos que Dieu offre à son peuple. Dieu l'a offert à ceux qui sont dans l'incapacité. Et on va voir comment c'est important de rester dans cet état-là. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez reconnu votre incapacité devant Dieu et vous êtes entré comme ça, on est joyeux, on est content de savoir que Dieu nous accueille, que Dieu est prêt à nous recevoir parce que Jésus a tout payé, Jésus a payé la dette de nos péchés à la croix. Et on est content de ça et on doit rester content, rester dans cet état de besoin par rapport à Jésus. Et des fois, dans notre vie chrétienne, on peut se rendre à un point où on va oublier notre besoin, oublier notre incapacité. Et là, on va dire, ah, OK, maintenant je suis sauvé, maintenant je suis capable. Et on va essayer de vivre notre vie chrétienne avec nos œuvres, avec notre force, avec ce qu'on est capable d'accomplir. Et des fois, c'est tout simplement parce qu'on est tellement content, on veut servir le Seigneur et on a une joie qui est là et c'est bien. C'est ce que Dieu veut, qu'on le serve avec joie. Mais on ne doit jamais oublier que quand Dieu nous sauve, eh bien, il veut nous équiper jour après jour. Il veut nous fortifier jour après jour parce que sans lui, on ne peut pas le servir d'une manière qui lui plaît. Ça nous dit dans Hébreux 4, ça nous parle de Jésus comme étant celui qui a accompli tout ce que Dieu demandait dans la loi. Ça nous parle que Jésus a tout fait ce qui était nécessaire. Ça nous parle aussi à la fin du chapitre 3 comment le peuple de Dieu a endurci son cœur par rapport au Dieu qui voulait pourvoir à ses besoins. Quand Dieu a amené le peuple de Dieu dans le désert, il voulait que le peuple s'appuie sur lui comme étant justement le rocher, le roc, celui qui était le pourvoyeur, celui qui était la source même de tout. Et ça nous dit au verset 15 du chapitre 3, pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. » Le peuple de Dieu s'est révolté parce qu'il ne voulait pas s'attendre à Dieu. Le peuple de Dieu a détourné les yeux sur celui qui est le pourvoyeur. Et ça nous dit au chapitre 4, au verset 1, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas foi chez ceux qui l'entendirent. » Elle ne trouva pas foi chez ceux qui l'entendirent. Aujourd'hui, quand vous voyez ça, dites-vous, il n'est pas trop tard. C'est aujourd'hui. Dieu fixe encore un jour, il nous donne encore un jour. Puis il nous dit, venez. La promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Amen. Pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui sont pas en Jésus-Christ, qui n'ont pas encore reçu, pour ceux qui n'ont peut-être même pas encore entendu la bonne nouvelle, il n'est pas encore trop tard, et c'est pour ça qu'on doit proclamer cette bonne nouvelle, parce qu'elle est encore réservée pour eux. Mais ça dit aussi qu'aucun de vous, c'est intéressant, ça ne parle pas des gens du dehors, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Il n'est pas trop tard. Ce repos-là, il est encore là, il est encore saisissable. Et de quel repos qu'on parle? On parle encore du repos des œuvres, du repos de l'effort humain, de vouloir faire quelque chose que Dieu a déjà fait d'une manière parfaite. Venez, venez. Car cette bonne nouvelle, au verset 2, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée leur servit de rien. C'est un appel solennel. Et plus qu'un appel, c'est un ordre. Venez. Dans Matthieu 13, verset 1 à 9, ça nous parle de c'est la parabole de la terre et de la semence. Puis là, la semence est jetée, ça tombe sur le bord du chemin, ça tombe dans les pierres. Et ça nous dit, ici au verset 2, elle ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas foi chez ceux qui l'entendirent. Elle n'a pas trouvé la bonne terre. Est-ce que la semence est tombée dans la bonne terre? Ce matin, est-ce que votre cœur, c'est la bonne terre dans laquelle la semence est tombée? Et dans laquelle cette semence-là va pousser, va croître, va porter du fruit. Le moyen est toujours le même. Le moyen d'entrer dans ce repos-là est par la foi. Et le moyen de rester dans ce repos-là est par la foi. Toujours par la foi. C'est ce qui nous amène à Dieu, c'est ce qui nous garde en Dieu, c'est ce qui nous rapproche de Dieu. Il y a aussi une urgence à l'appel. Ça nous dit au verset 7, « Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas. » Après cela, d'un autre jour. Et c'est là le point. C'était pas le but ultime n'était pas un repos physique, mais un repos du cœur, un repos de l'âme, un repos pour toujours, un repos qui dure. Il y a une urgence là, parce que c'est relié avec un autre ordre, n'endurcissez pas vos cœurs. Pourquoi c'est dit aujourd'hui? Parce que si c'est pas aujourd'hui, tout ce qui peut arriver, c'est que votre cœur s'endurcisse. Pour le pécheur, pour celui qui n'est pas encore venu à Jésus-Christ pour ses péchés, pour son salut, le danger est que son cœur s'endurcisse jusqu'au point où il n'y aura plus rien à faire. Jusqu'au point où Dieu va le laisser aller à sa folie. Et d'une manière semblable, pour les enfants de Dieu, il y a aussi un danger d'endurcissement. Si on n'entre pas dans ce repos-là, d'aller à Dieu pour tous nos besoins, d'aller à Dieu pour tout ce qui pourrait être nécessaire pour notre vie, nécessaire pour avancer, nécessaire pour notre courage, pour persévérer, eh bien, un jour ou l'autre, on va s'endurcir. si on ne va pas à Dieu avec même nos péchés quotidiens, on n'en parle pas souvent de ça, nos péchés quotidiens. Une des plus grosses erreurs, un des plus gros mensonges qu'on peut croire, c'est qu'on est capable de vivre nous-mêmes. Qu'on est capable de parvenir à quelque chose nous-mêmes et de balayer en dessous du tapis nos péchés, même les plus subtils, même les plus cachés, même ceux qu'on, des fois, on voit pas. Je lisais dans Job, c'est intéressant quand on voit Job qui parle de ça parle de ses enfants qui s'accueillaient les uns les autres. Puis Job, qu'est-ce qu'il faisait? Il offrait des sacrifices pour ses enfants. Au cas où qu'il y en ait quelques-uns qui aient péché, qui aient quelque chose, il voulait tellement être certain qu'il n'y avait rien entre eux et Dieu. On doit toujours être certain qu'il n'y a rien entre nous et Dieu. Parce que le danger d'endurcissement est là. Et il subsiste. Juste faire un petite parenthèse dans un Jean chapitre 1 verset 7. On va commencer au verset 6. 1 Jean chapitre 1 verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et on peut lire ça en se disant, OK, je vais marcher dans la lumière, je vais obéir à Dieu, je vais faire tout ce qui est correct. Puis là, je vais être en communion avec Dieu, et c'est vrai. C'est vrai, mais Jean continue au verset 8. C'est tellement important de ne pas se séparer, des fois de prendre le verset dans son contexte. Regardez au verset 8. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et la parole n'est point en nous. » Et, ça c'est moi qui le rajoute, nous marchons dans les ténèbres. Quelle est cette lumière-là dont Jean parle? Jean parle de la lumière, c'est la parole de Dieu qui nous éclaire. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est elle qui éclaire, c'est elle qui nous ouvre les yeux sur qu'est-ce qui est bien, sur qu'est-ce qui ne l'est pas et sur notre condition à nous. Et le Saint-Esprit va illuminer, va mettre en relief qu'est-ce qui fonctionne pas. On ne doit pas se leurrer. Si Jean a écrit ça, c'est parce qu'il y avait un besoin. Il voyait le besoin. N'oublions pas que Jean a écrit ça à la fin de sa vie. Il était rendu âgé. Il connaissait la vie chrétienne, il connaissait qu'est-ce qu'il en était, il connaissait les épreuves, il connaissait le besoin ultime d'aller à Dieu avec tout ce qui est là, tous les aspects, tous les besoins, tous les problèmes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous encourage à passer du temps dans l'Épître aux Hébreux. C'est une épître profonde qui décrit tellement bien, si vous ne comprenez pas tout le livre des Lévitiques, qui est parfois pénible avec toutes les lois, avec tout ce qui est là. Puis là, on dit, pourquoi c'est si compliqué? Eh bien, l'Épître aux Hébreux nous révèle l'œuvre complète de Jésus-Christ d'un bout à l'autre. Comment Jésus-Christ a accompli cette œuvre-là pour nous donner un repos. Pour nous donner un repos. Puis le problème, c'est toujours le même. C'est notre incrédulité. C'est notre incrédulité qui nous empêche de voir, qui nous empêche de réaliser comment Dieu nous aime, comment Dieu a tout pourvu, comment Dieu savait exactement ce qu'on avait besoin et comment il veut nous amener d'un endroit bien meilleur. Et Dieu veut nous amener d'un repos qui n'est pas physique, qui n'est pas fait de main d'homme, qui n'est pas fabriqué, mais qui est divin. Un repos divin. Ça nous dit au verset 10 dans Hébreux 4, « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. » Comme Dieu s'est reposé des siennes. Et c'est toujours étonnant quand on lit, j'ai été tellement longtemps à ne pas comprendre. Ok, Dieu s'est reposé le septième jour. Ça nous dit dans Genèse 2, versets 2 et 3. Genèse 2, versets 2 et 3. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Pensez-vous vraiment que Dieu était fatigué d'avoir fait tout ça? Puis là, on lit ça, on dit, ok, c'est où il veut nous amener avec ça? Mon attention a été attirée vers le verset 31 du chapitre 1, ça nous dit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. » C'était très bon, c'était parfait, c'était complet. Et c'est là tout le point, tout ce que Dieu a fait était parfait. Et il voulait nous montrer que tout ce qui reste à faire, la seule chose qui reste à faire, c'est de se reposer. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à essayer, à travailler, à essayer d'améliorer. L'œuvre de Dieu était complète. Pas juste complète dans ce qu'on voit, pas juste complète dans la nature, dans tout ce qui a été créé, qu'on peut voir, fait de... Qui physiquement, qu'on voit avec nos yeux, mais complet dans son œuvre aussi, son œuvre rédemptrice. L'œuvre de Christ était inclue dans cette perfection-là. N'est-ce pas extraordinaire de réaliser que Dieu avait tout fini? Tout fini. Rien à y ajouter. Pouvez-vous imaginer, vous fabriquez une chaise, une belle chaise, quelque chose là de solide, là, ça fait longtemps là, que vous y pensez, vous avez un plan parfait pour la meilleure chaise qui soit, la plus confortable, la plus ergonomique, la plus pratique, et puis là vous la montrez. Puis la personne arrive, puis au lieu de s'asseoir dessus puis l'essayer, elle essaie de trouver comment elle peut améliorer la chaise. Comment elle pourrait rajouter quelque chose. C'est une image un peu boiteuse, mais si on veut rajouter de quoi à ce que Dieu a fait, c'est exactement ça qu'on fait. Non seulement c'est un repos dans lequel on est appelé à entrer, à rester, à persévérer. C'est un repos divin et c'est un repos qui est exigé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le repos de Dieu, hein, le sabbat, c'était quelque chose de tellement important dans l'Ancien Testament. Et Dieu est bon. Il faut reconnaître sa bonté dans ça. Il faut reconnaître que Dieu veut, même physiquement, Dieu a pourvu une journée pour se reposer, une journée pour... parce qu'on avait besoin de ça. Et pour nous les chrétiens, c'est pas un sabbat comme les juifs. Je sais pas si vous avez déjà parlé à un juif. J'ai connu un juif, on peut dire un juif messianique qui a été sauvé par la grâce. Mais il nous contait comment, dans sa famille, vive la technologie, il pouvait maintenant faire ça. À l'époque, c'était différent un peu. Il pouvait programmer le four pour qu'il parte tout seul, parce qu'il n'avait pas le droit de partir le four le jour du sabbat. C'était strict, c'était sévère. Puis avant la technologie, ben il allumait le feu d'avance, puis il faisait juste l'entretenir pour être sûr que de ne pas faire une œuvre. Et tristement, ils avaient manqué le point, mais... combien c'était important. On voit cet exemple-là tout le long de l'Ancien Testament et on voit ça revenir dans le Nouveau et ça revient encore, mais à mesure qu'on avance dans le Nouveau Testament, ça change. Ça disparaît, pas d'une manière complète, mais c'est tout simplement devenu le repos, le jour du Seigneur. Celui dans lequel on veut se reposer dans notre Seigneur Jésus-Christ. On veut se réjouir en lui. On veut espérer en lui parce qu'on sait que c'est lui qui nous donne la force dans notre semaine. C'est lui qui nous donne tout ce qui est nécessaire pour notre vie, pour vivre dans ce monde qui est rempli de fardeaux, qui est rempli de tout ce qui peut nous affliger, rempli de mal. Et Dieu est entièrement satisfait de son œuvre et il veut aussi la partager avec nous. Et tristement, il est obligé de l'exiger. Parce qu'on a cette tendance-là à vouloir se fabriquer quelque chose d'autre. Dieu veut le partager. Dieu a créé l'homme pour partager avec lui. Quand il était dans le jardin, il a créé l'homme dans le jardin pour avoir une communion avec lui, pour partager du temps avec lui. Et Dieu a voulu que l'homme partage non seulement sa création, mais aussi, encore plus, Dieu veut partager ce qu'on ne voit pas encore. Dieu veut partager avec nous son ciel, veut partager avec nous son éternité. Amen. Avez-vous déjà pensé au fait que ce partage-là n'aura pas de fin? Que ce que Dieu nous donne, il nous le donne pour toujours. Pour l'éternité, il n'y aura pas un temps où on va dire « Ok, là c'est terminé, puis comme les vacances. Hein? » On dit toute bonne chose à une fin. Ici-bas, peut-être, mais pas avec Dieu. Pas avec Dieu. Toute bonne chose n'a pas de fin. Parce que Dieu est bon, parce que tout ce qui est bon vient de Dieu, puis tout ce qui vient de Dieu, c'est parfait, c'est éternel. Dieu nous a fait semblables à lui pour qu'on puisse s'émerveiller. S'émerveiller de lui, s'émerveiller de sa création, s'émerveiller de son œuvre, du début jusqu'à la fin. Psaume 95, tournez avec moi rapidement. Psaume 95. Ça nous disait dans Hébreux que Dieu avait parlé dans David, il parlait des psaumes, de cet avertissement-là. Regardez comment le psaume commence. Psaume 95. « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. » C'est lui qui l'a fait, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix! N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Parce qu'ils ont été incrédule. Croyez-vous que Dieu a tout fait d'une manière parfaite? C'est facile à dire quand on regarde la création, c'est facile à dire quand on regarde le plan de Dieu en général. C'est plus difficile à dire quand on regarde notre vie, quand on regarde à quel point on a des embûches, à quel point on a l'impression qu'on gâche tout. Savez-vous quoi? Il n'y a rien qui prend Dieu au dépourvu. Dieu avait pourvu à ça. Dieu avait déjà réglé cette question-là. Complètement. Et ça continue dans Hébreux 4, au verset 11. « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. » Pas juste entrer sur le seuil de la porte, pas juste le regarder de loin, entrer complètement, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Si vous n'avez pas reçu le don de Dieu par Jésus-Christ pour votre salut, empressez-vous d'entrer avant qu'il soit trop tard. Ça nous dit qu'un jour, ça va être terminé comme le jour de Noé où Dieu a fermé la porte de l'arche et il était trop tard. Empressons-nous donc, et si vous êtes entré, restez pas sur le seuil de la porte. Entrez complètement. Entrez dans la maison, celle qui vous appartient, dans cette cité que Dieu vous a préparée, dans laquelle il veut que vous jouissiez de tout ce qui est dans la maison. Ça dit qu'il nous a adoptés comme des fils, pas comme le mercenaire qui mangeait à part, qui avait pas peur à tout ce qui était dans la maison, mais comme un fils, celui qui a accès à tout, tout ce qui est dans la maison, tout ce que Dieu a pourvu. Entrez. Entrez. Et maintenant, qu'est-ce qui peut vous empêcher d'entrer? Qu'est-ce qui peut vous empêcher d'aller plus loin, d'explorer les merveilles de Dieu, les merveilles de sa grâce? Ça nous dit au verset 12, toujours dans Hébreux 4, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Si vous ne le savez pas, Dieu le sait. Dieu sait exactement qu'est-ce qui vous empêche d'entrer dans ce repos-là. Essayons pas de se faire des illusions, se faire croire des toutes sortes de choses. Dieu voit, la parole de Dieu est là pour trancher, pour mettre à jour. Il n'y a rien qui est caché devant Dieu. On ne peut pas faire semblant, on ne peut pas jouer avec Dieu. Et ça nous dit au verset 14, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Si vous professez Christ, si vous dites que vous êtes sauvé, demeurez ferme dans cette foi-là. Demeurez ferme, ça ne veut pas dire essayez plus fort. Ça veut juste dire mettez votre confiance complète dans celui qui a tout fait. Le souverain sacrificateur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a traversé les cieux, ça nous parle de l'endroit où Dieu même est présent. Et ce matin, on a pris un temps dans la prière, et je ne sais pas si on réalise à chaque fois quand on va dans la prière, qu'on s'en va au trône de la grâce, qu'on s'en va au trône même de Dieu, dans la présence même de Dieu, à l'endroit où il n'y a aucun homme qui était permis d'entrer. Personne. Si quelqu'un entrait là, il mourrait. Dans l'Ancien Testament, on parle de le Saint des Saints, l'endroit dans le temple où il y a juste le souverain sacrificateur qui pouvait rentrer une fois par année. Puis après ses robes, il y avait des clochettes pour être sûr que Dieu l'entende, qu'il était prêt à l'entendre avant qu'il rentre, sinon il allait être foudroyé. On a un accès direct, illimité. On entend ça des fois avec l'Internet et on pense qu'on est illimité. Si vous pensez qu'Internet est illimité, imaginez comment Dieu est illimité. Un accès direct. J'espère que ça vous dépasse, cette vérité-là qui... Hein, notre cerveau ne peut même pas analyser toute la grandeur de ça. Est-ce que cette foi est réelle? Est-ce que notre foi nous amène à nous confier dans ce Dieu? Il vous appelle. Il vous appelle, venez. Est-ce que vous entendez l'appel? Si vous entendez sa voix, répondez-lui. C'est pas la fin, c'est juste le début. Regardez au verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Jésus-Christ a accompli l'œuvre de Dieu parfaitement pour nous. Puis il peut compatir. Si vous dites, ça marche pas, j'ai encore un problème, la communion est encore coupée, puis c'est vrai, le péché coupe la communion entre nous et Dieu, c'est pas la fin. C'est pas la fin car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir. Jésus-Christ, il a de la compassion pour nous parce qu'il connaît la faiblesse. Même s'il n'a pas péché, il connaît la tentation. Il sait comment c'est difficile. Il connaît comment on est faible. Approchons-nous donc, verset 16, approchons-nous donc, je vais terminer avec ça, avec assurance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Dieu veut nous secourir. C'est ce qui donne du plaisir à Dieu de nous secourir, de nous sortir de notre misère, de nous amener à un endroit où personne d'autre peut nous amener. Avez-vous déjà fait ça? Vous avez vu un endroit qui est extraordinaire. Puis là, vous voulez tellement amener quelqu'un là, puis lui montrer comment c'est beau, comment c'est grand, comment c'est merveilleux. C'est ce que Dieu veut faire. Amen. Avec chacun de nous. Reposez-vous maintenant. Amen.